tout honneur, on va commencer par la virtualisation avec Hyper-V. Donc on va parler de virtualisation, des évolutions qu'on a dans Windows Server 2016 par rapport aux générations antérieures d'Hyper-V. Donc premier gros changement, c'est le changement du type de fichier de configuration des machines virtuelles. On était jusqu'ici sur des formats qui étaient des formats texte. On passe sur un format binaire. Les raisons sont multiples. On a des meilleures performances en fait quand on est sur des environnements massivement virtualisés. Ça c'est parce que Hyper-V, c'est ce qui soutient la plateforme Azure. Mm-hmm. Effectivement, donc du coup, vu l'échelle qu'on a dans Azure, on s'est aperçu effectivement quand on a beaucoup de machines virtuelles, ça a un impact en fait de changer le format en fait de ces configurations de machines virtuelles. On a également une meilleure résilience. Alors, on a rarement eu de clients qui se plaignaient de corruption de fichiers de configuration des machines virtuelles. C'est juste que là encore, avec notre expérience de plusieurs années dans nos data centers d'Hyper-V à grande échelle, on s'aperçoit effectivement que dans certains cas, dans des environnements massivement virtualisés, on peut avoir certains désagréments relativement rares, mais du coup, ça a été comblé effectivement en changeant ce format. Donc désormais, vous aurez deux nouvelles extensions pour ces machines virtuelles, les VMCX, qui seront les configurations de machines, et puis les VMRS, qui seront les Runtime State Data. Pour obtenir ces informations sur les numéros de version qui sont supportés par différents hyperviseurs, en fait, on a une commande en PowerShell qui sera getVM ou updateVM configuration si on veut upgrader ce type de fichier d'un format vers un autre, tout simplement. Pascal, côté Linux également, on travaille beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait pour la partie de sécurisation ?
Donc, dans les générations 2 des machines virtuelles sous Windows Server 2012 R2, on supportait déjà le Secure Boot pour les dernières versions de Windows Server, donc Windows Server 2012 R2. Donc ça supposait effectivement d'avoir un firmware UEFI dans la machine virtuelle et puis le support du Secure Boot. On sait maintenant supporter le Secure Boot également pour les machines virtuelles Linux, alors à quelques conditions et notamment à une condition particulière. Quand on prend les derniers OS qui supportent le Secure Boot dans les distributions Linux, donc on parle de la 14.04 d'Ubuntu et suivante, et puis des SUSE Linux Enterprise Server à partir de la version 12, ces versions-là ont leur bootloader signé avec un certificat particulier qui est fourni par Microsoft. La signature est effectuée par Microsoft et ce certificat s'appelle Microsoft UEFI CA. Ce certificat, par défaut, il n'est pas dans la base DB du firmware UEFI de la machine virtuelle Hyper-V. Et donc, il faut installer ce certificat dans cette base du firmware de façon à ce qu'ils reconnaissent le Secure Boot avec un firmware signé avec ce certificat. Donc, c'est une manipulation très simple. Hein. Une commande PowerShell suffit pour, une fois qu'on a provisionné la machine virtuelle, pour ajouter ce certificat dans le firmware de la machine virtuelle. Et ensuite, tout se passe bien au niveau du démarrage, le Secure Boot. On a toute la chaîne complète de vérification du code de la VM.
Rappelons que l'intérêt du Secure Boot, effectivement, c'est d'éviter que des codes malveillants s'interfèrent au milieu de la chaîne de démarrage du système d'exploitation et viennent rajouter des choses.
Voilà, c'est qu'en plus des mécanismes classiques qu'on connaissait auparavant avec BitLocker et tout, de vérification de hash de code, on vérifie maintenant en plus une signature du premier bootloader de l'OS.
Alors, côté Hyper-V Replica, on a également quelques petites nouveautés. Enfin, la grosse nouveauté, c'est que désormais, quand on a configuré une machine qui est en train d'être répliquée sur un autre serveur Hyper-V ou un autre cluster dans un autre data center, l'objectif étant ainsi de faire du plan d'emploi d'activité, si la machine est déjà configurée, qu'on lui rajoute à chaud un disque dur, désormais Hyper-V Replica saura automatiquement rajouter ce disque qui a été ajouté à chaud à la VM d'origine, et automatiquement le répliquer et l'ajouter à la machine Replica. Donc au préalable, en fait, effectivement, c'était une opération qu'il fallait, il fallait relancer une configuration du Replica au préalable, c'est-à-dire 2012 R2 et avant. Donc voilà, ça c'est plus de simplicité et plus de souplesse, entre guillemets, pour la réplication. Donc l'intérêt, effectivement, comme je l'ai dit, hein, c'est ça peut être changé à chaud. Dans les versions antérieures, il fallait arrêter la machine virtuelle, refaire le paramétrage de la réplication pour pouvoir prendre en compte ce nouveau disque dur. Désormais, c'est simplement le fait de le plugger entre guillemets à chaud dans la VM ou de l'attacher à la VM qui fait qu'il sera automatiquement répliqué de l'autre côté. On peut le configurer en PowerShell, bien entendu, parce qu'on fait tout en PowerShell aujourd'hui, plus en PowerShell d'ailleurs qu'en graphique. Alors, sur l'Hyper-V Replica, à noter également que on fait en sorte en 2016 de faciliter entre guillemets l'hétérogénéité des versions, c'est-à-dire 2012 R2 et 2016. Donc on pourra répliquer des VM qui tournent sur un Hyper-V 2012 R2 et mettre le réplica sur Windows Server 2016. On peut également répliquer de Windows Server 2016 à destination de Windows Server 2012 R2, sous réserve d'être dans les versions de VM compatibles, c'est-à-dire peut-être dans du 2016 qui devrait tourner sur un OS qui ne comprendrait pas ces nouvelles extensions, vous l'aurez compris. On supporte également le cluster OS Rolling Upgrade, on en parlera tout à l'heure, donc je ne vais pas entrer dans le détail. Et puis on peut également faire un upgrade des versions lorsqu'on va effectivement déplacer des OS ou répliquer un OS d'une version antérieure vers une version supérieure qui est la 2016.
Redimensionnement à chaud de la RAM, c'est-à-dire qu'on peut avoir une VM de taille fixe et puis aller changer sa quantité de RAM qui lui est attribuée. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas nouveau, on savait déjà le faire.
Dynamic Memory.
Avec la Dynamic Memory. Mais par contre, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'a pas besoin d'activer la Dynamic Memory, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire la mémoire est de taille fixe sur la VM et je vais la changer et en attribuer plus ou moins à un instant T. Donc, ce n'est pas automatiquement administré par le système comme est la Dynamic Memory, c'est administré par vous. Autre nouveauté, et j'ai envie de dire, il était temps, on a la possibilité maintenant d'ajouter dynamiquement des cartes réseau pendant qu'une machine virtuelle est en cours d'exécution, au ceci près que ça doit être une VM de génération 2 pour supporter la fonctionnalité. Si on regarde dans l'interface à quoi ça ressemble, bah c'est classique, hein. La VM ajoute, on fait add hardware, et puis maintenant la partie network adapter en fait est plus engrisée lorsque la VM est en cours d'exécution.
Exactement. Après ça dépendra du système d'exploitation sous-jacent derrière, sur la détection automatique du périphérique connecté à chaud. Là, typiquement quand on est sur une distribution Linux ici, eh bien, on doit monter entre guillemets la liaison sur activer
ETH1 up, classique.
Donc il suffit de faire un IF up ETH1. Pour la monter.
Voilà, exactement. Quand si on était sous Windows, je pense qu'on aurait eu une détection automatique, ajout de nouveaux périphériques, et puis voilà.
Exactement. Quelques autres améliorations assez intéressantes également dans le gestionnaire Hyper-V. On a la possibilité désormais de se connecter avec une adresse IP directement depuis la console Hyper-V en spécifiant une cible, l'adresse IP. On va utiliser WinRM comme protocole aussi d'administration. On supportera au sein de la console Hyper-V plusieurs credentials.
Enfin, alléluia.
Enfin également, la possibilité d'administrer plusieurs environnements à partir de la même console Hyper-V, c'était plus que temps.
Ouais, parce que là, en fait, on avait le cas où on avait des serveurs dans un domaine.
Pas de problème.
Et puis des serveurs qui étaient par exemple en workgroup ou dans une autre forêt. Et du coup, on ne pouvait pas aller voir tous les serveurs, l'ensemble des serveurs dans la même console. C'était assez gênant quand même.
Yes, et puis on pourra administrer avec la console 2016, qui peut le plus, peut le moins, on pourra administrer du 2016, du 2012, 2012 R2.
Parfait. Sauvegarde de machine virtuelle, en gros il y a deux choses à retenir, capturer un point dans le temps avec un niveau de cohérence connu, c'est ce qu'on appelle un checkpoint, c'est depuis 2012 R2 le nouveau nom des ex-snapshots, mm-hmm. Cliché instantané. Si on veut extraire ou archiver ce point dans le temps de façon à ce qu'on puisse le restaurer dans le futur, ce qui correspond à, qui ressemble à quelque chose qu'on pourrait appeler un backup, hein. On parlera ici d'export et d'import. Donc les nouveautés qu'on a sur les checkpoints, ex snapshot, c'est deux types déjà de checkpoints, soit le checkpoint de production, soit le checkpoint standard. Le standard checkpoint va faire la cohérence applicative. Donc valable quand il y a du EVSS et autres. Mm-hmm. Le production checkpoint va faire une cohérence des données. Là, on est plus au niveau file system ou cas de crash. Donc ces niveaux de cohérence en fait, vont également dépendre des OS sous-jacents qu'on va vouloir faire derrière en termes de snapshot. Par exemple, effectivement, si on est sur du Windows Server, là, on peut faire la cohérence applicative, parce que mm-hmm. c'est nativement intégré le VSS. Si on est sur des environnements Linux et on cherche à faire tourner Linux au mieux qu'on peut sur notre plateforme, mais Linux n'intègre pas de mécanisme intrinsèque équivalent au VSS. Mm-hmm. Du coup, là, on sera plutôt sur une cohérence dite de données, où on assure la cohérence du file system qui est en train de tourner derrière. À noter, c'est qu'on a également ces points de référence vont permettre de faire du coup un backup incrémental qui soit assez efficace. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, on peut extraire les snapshots, les exporter, les importer. C'est également potentiellement pour s'en servir pour faire du backup, même si historiquement, on a toujours dit, jusqu'ici, que le cliché ou le checkpoint n'est pas fait pour faire du backup.
Donc belle avancée également en matière d'architecture de stockage et de sauvegarde.
Exactement. Donc là, juste une petite capture d'écran au niveau des checkpoints, où on voit les deux notions de production checkpoint ou standard checkpoint. Et puis effectivement, l'endroit également où on va stocker les checkpoints de cette machine virtuelle. Donc c'est un peu plus évolué que ce qu'on avait avant. Et du coup, ça permet effectivement l'extraction après de faire un déplacement ou un backup via des outils de sauvegarde classiques de fichiers. Mm.
Donc là, il nous dit bien qu'effectivement, quand on fait un production checkpoint, il va lancer tous les providers VSS qui sont inclus dans la machine, exactement. Comme quand on lance un Windows Server Backup.
Exactement.
Plutôt cool tout ça. Autre fonctionnalité qui vont nous aider lorsqu'on fait des reprises de VM dans des scénarios un petit peu de sauvegarde et autres.
C'est les groupes de machines virtuelles parce que l'histoire du snapshot avec cohérence applicative était très bien. Et chaque fois, souvent on me demandait, mais ok, c'est bien qu'on ait une application qui tourne sur un seul serveur. Donc là, effectivement, on fait un checkpoint avec cohérence applicative et on est certain effectivement, quand ça va démarrer, on a quelque chose de propre. Mais quand on a des applications distribuées, comment on fait ? Jusqu'ici, on n'avait pas une très belle histoire à raconter là-dessus, en disant, bah oui, normalement, si vous faites des checkpoints partout, enfin, sur toutes les machines, ça devrait aller, mais est-ce qu'on est exactement sûr que on est pile poil tous au même instant le bon checkpoint, que c'est tout est cohérent dans son ensemble, c'est-à-dire plusieurs machines virtuelles constituant une application, en fait. Mm-hmm. Donc, désormais, en fait, on va pouvoir regrouper des machines virtuelles dans Hyper-V, faire des groupes de machines virtuelles. Donc, ça permet, par exemple, de prendre des clusters de VM ou des applications distribuées. Ces groupes, on peut les étendre sur plusieurs hyperviseurs, il n'y a pas de souci. Et du coup, on pourra faire des checkpoints qui seront sur des groupes. Donc, on aura du coup un ensemble de checkpoints qui seront cohérents parce que ça va s'appliquer à un ensemble de machines et pas différents checkpoints qui sont faits sur différentes machines en espérant qu'au total, tout va tomber en marche quand on redémarrera l'ensemble. Le gros intérêt également, c'est qu'on peut, comme les autres checkpoints, les checkpoints de groupe, on peut les exporter. Donc, du coup, on peut faire une sorte de backup d'un ensemble cohérent de serveurs ou d'une chaîne applicative complète de serveurs à l'instant T. Voilà.
Autre nouveauté intéressante en matière de virtualisation d'une machine virtuelle dans Windows Server 2016, on a une notion qui est assez intéressante de VM renforcée, de Childed VM. L'idée, elle est relativement simple, c'est que quand on a une machine virtuelle, on partage un certain nombre d'éléments, ou on fait confiance à un certain nombre d'éléments de la machine physique qui est en train d'exécuter la machine virtuelle. L'idée des machines virtuelles renforcées, c'est d'éviter ça, en fait. Pourquoi ? Alors, il y a un exemple assez simple hein, qui permet d'illustrer ça, c'est le cas des machines virtuelles qui hébergent Active Directory. Si on a une machine virtuelle qui héberge Active Directory, de fait, l'administrateur de l'Hyper-V a accès au VHD, au VHDX, des contrôleurs de domaine. Du coup, l'administrateur de la solution de virtualisation ne doit pas être admin du domaine. D'accord, il n'y a aucune raison pour qu'il soit admin du domaine. Et ben, de fait, il l'est vu qu'il a accès aux médias, aux disques durs virtuels. Donc on peut imaginer qu'il récupère les fichiers et qu'il se fasse toutes sortes de plaisirs avec les secrets de l'Active Directory. Donc pour éviter ça, on a cette notion de Childed VM qui va permettre comme ça de protéger la machine virtuelle contre, entre guillemets, l'hyperviseur qui est en train de les exécuter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on exécutera des machines virtuelles qui sont chiffrées. Donc l'hyperviseur la personne qui accède à l'hyperviseur n'aura pas forcément accès au contenu de la machine virtuelle. C'est un premier élément, parce que les disques seront chiffrés. Il n'y aura que la machine virtuelle en cours d'exécution qui pourra débloquer et accéder au disque. C'est le premier aspect. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on va s'assurer que la couche de virtualisation qui démarre la machine virtuelle est une couche de virtualisation que j'ai déjà autorisée. C'est-à-dire que je pourrais dire... Cette VM-là, elle est exécutée que sur cette fabrique, que sur cet environnement. Et puis aussi, on pourra s'assurer de la santé de l'hyperviseur qui démarre la machine, avec l'ensemble des mécanismes qu'on a vus précédemment, hein, le Secure Boot, etc., me permettra de m'assurer que je ne lance ma VM que sur une machine qui a fait le Secure Boot avec succès, duquel tout est signé et il n'y a pas eu d'insertion de code malveillant. Donc très intéressant cette notion de Childed VM pour des cas de VM qui doivent être particulièrement sécurisés. L'Active Directory étant un des scénarios, il y en aura évidemment d'autres.
Donc c'est là effectivement qu'on est aussi dans des organisations où on a une séparation des rôles entre des gens qui sont responsables des identités de l'Active Directory, des gens qui sont responsables de la partie virtualisation et que ces gens-là ne doivent pas avoir des rôles qui se chevauchent.
Voilà, c'est fini pour ce mélange des genres qui était dû à la virtualisation et qui faisait que... pragmatiquement, hein, jusqu'à présent, si on voulait éviter cette confusion des rôles, il fallait avoir des hyperviseurs qui soient dédiés à l'Active Directory. Et ça marche pour Hyper-V, mais ça marche pour toutes les couches de virtualisation du marché, évidemment.
Bien entendu.
Donc, on a dans Windows Server et dans Windows Azure cette espèce de continuité de la virtualisation, on l'a dit, hein, entre des machines virtuelles, des containers, des services Azure Service Fabric. Tout ça va pouvoir se reposer sur Windows Server et sur Linux en utilisant soit Azure d'un côté, soit Azure Stack dans mon data center, dans mon cloud privé, à l'intérieur de mon entreprise. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la virtualisation des nouveautés d'Hyper-V dans Windows Server 2016.